vous parler d'une pratique sans valeur, mais pas sans impossible.
Merci. Alors, donc... C'est grâce à la pratique clinique avec des personnes qui ont connu l'envers de la politique, dont il faut son, en quelque sorte quitter cette partie, que j'ai fait un lien avec les séminaires, et surtout j'ai réalisé à quel point les comiques était supérieur au tragique. Et pourquoi? Il me semble, et c'est Lacan qui dit ça, que le comique dissout la terreur. Donc je vais tenter de parler de ça à partir de deux notions. C'est pour ça mon titre, La valeur et l'impossible. Avant de commencer, je vais vous lire trois extraits de Lacan de cette époque différente où il insiste sur la question du comique et la position qu'il me semble qu'il a pris et les risques. Donc la première, c'est de 1967. Il dit « La vraie dimension de la clownerie est indispensable à saisir comme étant ce qui a à faire l'acte analytique. » En 1973, il dit « Rien ne saurait se dire sérieusement qu'à prendre sens de l'ordre comique. Et en 75, il dit, c'est grâce à ça, parce qu'il parle, la parole, que ce que j'appellerais un déconnage orienté a prévalu dans ce qu'on appelle la pensée, pensée qu'on dit humaine. Le sujet est vaste, mais le travail fait par les collègues, je rejoins Marie-José sur ces points, ont précédé, nous permet d'avancer, non pour clore, mais pour créer des ouvertures. C'est mon souhait. Parmi toutes les interventions, une remarque sur l'humour de Michaela Turcanu a retenu mon attention et une allusion à une phrase de Lacan par Frédéric Pellion. La psychanalyse est une pratique sans valeur. Je vais me servir des deux, l'humour et la valeur, pour aborder les thèmes de l'année, l'inconscience et la politique. En toile de fond, j'ai fait référence au livre de Stéphane Habib, Faire avec l'impossible pour une relance du politique, livre qui porte les traces du travail qu'il réalise avec Françoise Goroc à l'École normale supérieure. Et Stéphane Habib nous invite à faire attention à l'utilisation chez Lacan du passant. Passant est un acte qui consiste à mettre ensemble, souvent de manière étonnante, des concepts que l'on imaginait pas aller ensemble, parfois simplement en changeant l'ordre de sa place habituelle, comme dans les collages. C'est le cas de la phrase qui nous occupe ce soir. L'inconscience et la politique, pas l'un sans l'autre. Pour avancer dans notre propos, je reprends une définition que Habib donne de la politique. L'un des noms d'une réponse à ce qui arrive. C'est-à-dire que c'est grâce aux formations de l'inconscient que les hommes se lient ou se délient entre eux. Nous le savons bien, souvent, quand une formation de l'inconscient émerge, c'est pour arrêter un ordre du monde. L'exemple que je reprends pour illustrer ces points est l'intervention publique que Freud a faite en 1920 au Parlement autrichien. En effet, après la guerre des soldats, on accusait des psychiatres d'avoir pratiqué sur eux des trop forts courants électriques. Il faut rappeler que les soldats étaient suspectés des simulations pour fuir la guerre. La réponse de Freud est très fine. Tous les névrosés sont des simulateurs, ils simulent sans les savoir et c'est leur maladie. C'est un syllogisme logique, propre à la logique de l'inconscient, qui ne tient pas compte ni de la géographie, ni de la langue, ou encore moins du contexte politique. Les auditeurs de Freud n'étaient pas prêts à entendre cette réponse, parce que justement le savoir qui s'est produit en psychanalyse demande des conditions particulières pour pouvoir être entendu. La remarque de Freud a eu l'effet habituel d'incompréhension suivie de critiques sous la psychanalyse. Technique des soins trop coûteuse, traitement trop long. En revanche, Freud a pu dire de manière claire que face à la dimension politique de l'inconscient qui a obligé une partie des soldats à arrêter de faire la guerre, à travers des symptômes névrotiques, la réponse de la psychiatrie n'a pas été à l'auteur du devoir humanitaire. En effet, les médecins militaires ont préféré répondre à la demande de l'État qui était de rendre aptes le plus vite possible les soldats au service de la guerre, plutôt que de défendre les malades. En termes lacaniens, on pourrait dire aujourd'hui de faire avec l'impossible, c'est-à-dire au milieu de la guerre, s'arrêter pour lire un par un les messages de l'inconscient. C'est sur ces points des croisements de discours juridico-psychiatriques que déjà en 1920, Freud savait que la place de la psychanalyse serait à définir parmi les autres discours. Mais il a fallu le développement de Lacan pour mettre au clair les conditions nécessaires pour que les discours analytiques existent. Nous vivons une autre époque. La question de la valeur. La psychanalyse, une pratique sans valeur. Il faut expliquer cette provocation de Lacan. Alors que nous ne cessons de nous vanter de notre éthique, même du côté esthétique, presque poétique de nos interventions, à mon sens, il s'agit d'une assertion interprétative de Lacan qui cherche à dégonfler toute idée d'élévation du discours analytique. Ce passage est tiré du séminaire « L'insu qui sait des longues revues, c'est l'amour » de la séance 19 avril 1977. Il revient sous la notion du beau, je le cite. « Nous n'avons rien à dire des beaux. C'est d'une autre résonance qu'il s'agit de fonder sur les mots d'esprit. » Un mot d'esprit n'est pas beau, il ne tient que d'une équivoque, ou comme le dit Freud, d'une économie. Rien de plus ambigu que cette notion d'économie, mais tout de même, l'économie fournit la valeur. Une pratique sans valeur, voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instituer. Donc, une pratique sans valeur, voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instituer. Vaste programme que propose Lacan en 1977. Il nous est impossible de revenir sur toutes les variantes de la question de la valeur chez Lacan, mais reprenons par exemple l'allusion qu'il fait en 1957, 20 ans en arrière, je cite, « Remarquez bien, c'est un ruse du langage, car plus elle se dévoilera, comme vraie valeur, plus elle se révélera comme étant supportée par ce que j'appelle les peu de sens. » Fin des citations. Je l'aurais dit autrement. Plus la parole se dévoile la vérité, plus elle est du côté du non-sens. La prise de la parole, même s'il s'agit d'une parole vraie, tourne forcément au non-sens. En effet, sans doute, de la langue. C'est ce que nous constatons dans notre pratique. J'avais travaillé sur ces points. Foucault, dans son dernier séminaire, avait, avant sa mort, fait l'éloge de la paresse. Autrement dit, les dire vrai. Je vous livre la réponse de Lacan sur ces points. Les réels, c'est ceux qui se déterminent de ceux qui ne s'épuisent pas d'aucune façon s'y écrire des rapports sexuels. Et c'est de là que résulte ce qu'il en est du dire vrai, tout au moins ce qui nous démontre la pratique du discours analytique. C'est que ces dire vrai, c'est-à-dire des conneries, celles qui nous viennent, celles qui nous joutent comme ça, qu'on arrive à frayer la voie vers quelque chose dont ce n'est que tout à fait contingent. Fin des citations. Dire des conneries, inventer une langue, c'est la raison, il me semble, pour laquelle Lacan revient en force sur les mots d'esprit et sa structure à la fin de son enseignement, pour traiter la question de la place de la parole dans les discours analytiques, devant les autres discours. Lacan dit « Le mot d'esprit est complètement gratuit. Néanmoins, vous voyez là les mécanismes élémentaires du trait d'esprit, à savoir que la légère transgression du code est prise par elle-même en tant que nouvelle valeur permettant d'engendrer instantanément les sens dont on a besoin. » Fin des citations. Donc, c'est très sérieux, cette affaire de la valeur, d'une pratique qui n'a l'air de rien, d'une pratique autour d'un trou qui laisse entrer un nouvel air, une nouvelle ère. L'exemple Lacan, que Lacan donne à la radio est celui de Lewis Carroll en France Culture en 1966. Il dit « Il faut vite en revenir avec ces repères précieux que justement les pays des merveilles, l'au-delà du miroir. On n'y évoque ni genèse, ni tragédie, ni destin. Alors comment cette œuvre a-t-elle tant de prises ? C'est bien là le secret et qui touche aux réseaux les plus purs de notre condition d'être, les symboliques, l'imaginaire et les réels. Les trois registres par lesquels j'ai introduit un enseignement qui prétend pas innover, mais rétablir quelques rigueurs dans l'expérience de la psychanalyse. Les voilà jouant à l'état pur dans les rapports les plus simples. » Fin des citations. Lacan ne parle pas d'inventer, mais de rétablir. Ce n'est pas la même chose. Rétablir les nœuds les plus simples entre les réels, les symboliques et l'imaginaire, qui est au fond l'inconscient réel. En 1967, après la publication de ses écrits, Lacan avait le projet de produire une œuvre qui aurait d'après lui un succès véritablement prodigieux. Il s'agissait d'une éloge, comme celui d'Erasme avait fait à son époque de la folie. Lacan était pour faire un éloge de son époque, il voulait produire l'éloge de la connerie. Je tiens ce texte de l'étourdi comme la concrétisation de cette idée. Lacan y déconstruit les savoirs et nous montre comment l'inconscient est toujours là, même s'il n'est pas invité. Il est toujours présent et il sera toujours sous la forme d'un étourdi, c'est-à-dire autour d'un dit qui n'a pas de sens comment, mais plusieurs sens. Il met en échec la vérité déjà établie et il se sert du réel établi par les mots d'esprit, lesquels demandent la présence d'un tiers dont il fait lien malgré les non-sens. Pour insister sur la matérialité de la parole et son lien avec les réels, comme l'affaire politique de l'inconscient, Lacan mettra la parole hors jeu dans les discours analytiques. L'épreuve du discours analytique est un discours sans parole. Dans les séminaires 7, séminaire sur l'éthique, Lacan évoque la figure des harpeaux. Un des quatre Marx Brothers, Bouchot, Chicot, Goumot et Seppo. Harpeau est muet et il est présent pratiquement dans toutes les scènes en continu. C'est sans aucun doute le personnage principal. Sans lui, les jeux des jokes ne pourraient pas exister. Harpeau représente, à mon sens, l'inconscient en action. Je cite Lacan. Harpeau, y a-t-il rien qui puisse poser une question plus pressante, plus prenante, plus chavirante, plus nocieuse, plus faite pour jeter dans l'abîme et les néants tout ce qui se passe devant lui, que la figure marquée de ses sourires, dont on ne sait si c'est celui de la plus extrême perversité ou de la niaiserie la plus complète. Fin des citations. C'est grâce à Harpeau que la comédie des frères se soutient. C'est les frères Nguyen qui construisent la trame. Il suffit qu'ils fassent bouger un objet pour créer le chaos, un simple objet qui n'est plus à sa place et dont il est le seul à savoir où il est. Hélas, il est Nguyen, il ne dira pas un mot. La présence des harpons est indispensable parce que c'est Harpo qui lie les sons entre eux, ses frères, et qui les oppose. Avec les mots d'esprit, Frey s'aperçut que le poids des mots et sa valeur se modifient, ils franchissent les contraintes habituelles du discours. Il a un pouvoir d'émancipation. La différence d'un mot d'esprit par rapport aux autres formations de l'inconscient, bref, lapsus et symptômes, qui sont des phénomènes involontaires. Et que les mots d'esprit exigent des conditions particulières, notamment la présence d'un tiers, d'un public, pour produire son effet. Les mots d'esprit n'existaient pas sans les autres. Voilà les caractères politiques. Ils montrent la faille qui existe entre la vérité et les savoirs sans interrompre les liens. De plus, les mots d'esprit relèvent l'emprise inconsciente qui gouverne la parole. Son usage décrit des franchissements sociaux d'un interdit. C'est une sorte de transgression autorisée et surtout la levée des inhibitions. Les rires marquent la réussite de la parole sous l'angoisse, cause de l'inhibition. Les rires, c'est le triomphe du réel sous la vérité. Avec son livre sous les mots d'esprit, Freud a montré au monde scientifique de son époque que l'inconscient, c'est la politique, même en dehors des névroses et des psychoses. L'inconscient agit pour créer l'instabilité du savoir et l'inconsistance de l'autre à condition qu'un témoin en assure ensuite la stabilité. Les mots d'esprit produisent un effet libérateur sur les réalités extérieures, à la différence du symptôme. Il garde son lien avec les principes du plaisir. L'être parlant éprouve le besoin de tirer de son processus de pensée un gain de plaisir. C'est-à-dire qu'il présente des situations dramatiques de manière plaisante. Les mots d'esprit et sa relation avec l'inconscient, écrit en 1905, est sans doute un des plus importants textes de Freud. Dans sa conclusion, Freud fait allusion à la bonne humeur qui habite naturellement l'enfant. Il reste à explorer sa disparition. Freud a quand même pris très au sérieux les questions de l'humour. Étymologiquement, l'amour et l'humour ont connu des croisements jusqu'à en former un nœud. En latin, amor et humour, dans le sens de la sève, de la saveur, mais aussi des fertilités. En tout cas, il existe un lien étroit avec le corps et les liquides organiques. Dans l'expression de la bonne et la mauvaise humeur, on retrouve les liens. En Italie, humorista a été aussi repris par les médecines pour utiliser dans la théorie des humeurs. Notre époque donne très peu de place aux questions de l'amour, comme a dit Lacan, mais qui a été mis au rancard, mais aussi aux questions de l'humour. Les attentats contre le journal Charlie Hebdo en 2015 en sont une triste confirmation. La raison de ces peu de place à l'amour et l'humour est un lien avec la perte. Le discours analytique s'est construit sur une perte inaugurale, irrémédiable, de la jouissance. A contrario, les discours capitalistes se présentent comme les discours sans perte. La jouissance est un trou à combler. Le manque est assuré comme ce qui résulte d'un prélèvement sous les yeux de l'autre. Or, cet objet qui peut prendre la forme du saint, excrément, regard ou voix, une fois prélevé sur l'autre, ne peut plus lui être restitué parce que les produits, c'est les sujets. C'est sur cette opération qui s'est fondée la théorie de la valeur chez Lacan. L'algèbre lacanienne introduit ce qu'il appelle plus de jouir. Il joue avec l'adverbe plus comme absence de jouir ou bien augmentation. Dans un article que Lacan avait rédigé pour le journal Le Monde, qu'il avait intitulé « D'une réforme dans son trou », il écrit au lecteur « Quelle est donc la côte des valeurs inhérentes au savoir, j'ai noué des effets du savoir dont s'inaugurent les sujets, en tant qu'effet des pertes qui vient signifier une coupure dans les corps, ceci sous la dénomination algébrique de l'objet petita. Que l'objet petita est une coupure dans les corps. En effet, depuis que Lacan introduit l'objet petita comme coupure dans le corps, il a mis en question la représentation du sujet par les signifiants. C'est à cet endroit précis que les changements se produisent. Nous passons d'un régime de la représentation à un régime de la production. L'objet A est au centre de ces tournants. Dans cette nouvelle formalisation, une nouvelle écriture est nécessaire pour montrer le changement. L'objet A sera désormais nommé plus des jouirs et la place qu'il occupe, la production. Je cite Lacan dans son séminaire 17 quand il fait allusion à ce qu'est le marxisme ouvrait comme voie, à savoir que le discours est lié aux intérêts du sujet. C'est ce que Marx appelle à l'occasion l'économie, parce que ses intérêts sont de la société capitaliste entièrement marchande. Fin des citations. Dans les discours analytiques, la vérité existe, mais on ne peut pas la dire. Le discours capitaliste fait l'impasse sur l'inaccessibilité. La vérité pour les discours analytiques est infalsifiable. L'ouvrier ne possède pas un savoir. Ce que Marx a découvert, c'est que l'ouvrier obéit et produit la plus-value. C'est-à-dire que la force de travail est devenue marchandise comme le café, la farine. Le plus déjoué prend la forme de la plus-value sur la valeur, ce qui fait écho à la Glücksgewinn de Freud, les gains de plaisir, d'où l'importance qu'est porté Lacan à l'humour comme gain de plaisir. Le capitalisme conditionne la psychanalyse et la précède par rapport à la mise en forme de la valeur. L'astuce du discours capitaliste est de transformer les prolétaires en consommateurs. C'est grâce à Marx qu'il a un sujet sous la forme des prolétaires. Les trous de la jouissance, Marx les comble avec les plus de jouir. Lacan l'a appelé les Max Lux, les plus de jouir de Marx, qui poussent les sujets à consommer encore et encore. La soif du manque à jouir, c'est ce qui a inventé les discours capitalistes. Sa logique, elle est connue, plus je bois, plus j'ai soif. Ce qui correspond à l'envers de la valeur de l'objet. Celui qui boit un premier verre a moins soif, normalement, au deuxième verre. Le langage est ce qui permet, via les discours, de faire lien et assurer une régularisation et circulation de la jouissance. La relation analytique procède par une extraction de la jouissance. L'analyste ne jouit pas quand il opère. C'est pour cela que c'est une pratique sans valeur des jouissances. L'illusion fait croire le contraire. L'analyste est considéré comme celui qui profite de sa place. Mais en réalité, l'analyste ne se refuse pas au principe du plaisir, je cite Lacan, ni à celui de la réalité. Simplement, il y est l'égal de celui qui guide. Il ne doit d'aucune façon amener à les franchir. Donc les deux principes du plaisir et les principes de réalité. Fin de citation. Ce qui a comme conséquence que les noms du réel, qu'on les dise ou pas, est de l'ordre de l'impossible, et de l'impossible à dire. La raison est que si je le dis, l'autre entend autre chose. Cette question du nom n'a pas entendu la psychanalyse, la question du nom des dieux était au centre de bien d'autres querelles. Ce qui est de l'ordre du réel et donc de l'ordre de l'impossible dans l'ordre du dire. C'est, il me semble, sur ce point que la prise de parole de l'analyste sur la place publique reste une question délicate au même titre qu'à l'intérieur du dispositif analytique. Comment faire pour produire la parole, produire que la parole devienne un acte politique? Il faut des conditions particulières relatives à la personne qui l'énonce et à la circonstance de l'énonciation. Lacan, c'est les tâches de la linguistique pour établir clairement ce qu'il entend du discours analytique comme un discours sans parole. Mettre la parole à sa place était indispensable pour Lacan, et notamment pour inclure les discours analytiques dans la ronde infernale de la vérité menteuse. En effet, il y a d'abord une articulation signifiante qui gouverne tout ce qui peut surgir comme parole, dont avant la parole préexiste un discours, ce qui revient à l'envers du discours, qui n'est rien d'autre que l'envers du signifiant, qui n'est plus représenté par un autre, mais qui fait trou dans les semblants, ce qui est propre du mot d'esprit. Je suis obligé de quitter sur un mot d'esprit, l'inconscient. C'est celui, les maîtres du jeu, parce que dans toute articulation signifiante, les symboliques ne peuvent pas réabsorber les réels. Le savoir comporte un irréductible noyau inconscient qui tient au fait qu'un sujet ne se auto-représente qu'au prix de s'exclure de sa représentation, des points où il se représente. Quand l'ironie dont il parle Freud dans les mots d'esprit manque à sa fonction, on ne peut pas baisser la valeur du réel. Dans les parcours d'une cure analytique, le sujet est parfois confronté à des énoncés qui mettent en tension les rapports entre les oui et les non. Et Freud, donc, il nous donne un exemple, je finis avec cet exemple, quand il reprend un mot d'esprit, il y a deux juifs qui parlent des bancs, et il dit « Je prends, dit un entre eux, un banc tous les ans, que ce soit utile ou non. » La vertu de l'ironie est créer cette tension entre les oui et les non pour montrer la faille du symbolique qui ne pourra jamais absorber le réel. Merci.